no.
Say yes or no. Yes or no.
Et vous vous en souvenez certainement, hier on vous parlait d'une magistrate néerlandophone qui avait dénoncé, je cite, la Belgique de devenir un état narco, un narco-état. Et donc quand vous avez posé la question à vous, auditrices et auditeurs, la Belgique devient-elle selon vous un narco-état ? Alors Lise, sans transition et sans attendre, que donne ce mini-sondage ? Et puis pour nous en parler, nous remercions déjà à l'avance d'être là. Nous sommes avec Michael Dantine, criminologue à l'ULIEJE, et il est là pour nous apporter tout son éclairage.
Alors, une grande majorité des auditeurs a répondu oui. On est à 75% de oui sur X, et c'est le moins de oui, si j'ose dire. 89% de oui sur Facebook et 98% de oui sur Insta.
Ah oui.
Donc, visiblement, c'est assez clair. Michael Dantine, est-ce que vous êtes d'accord avec nos auditeurs ?
Ben oui et non, en réalité, c'est-à-dire que en réalité, la question, si vous voulez, déjà renvoie à un concept qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'en fait, un narco-État, scientifiquement, ça ne veut rien dire. C'est juste une étiquette qui est collée. Si quand bien même ça existait, ce serait pas une variable binaire. Tel État est un narco-État, tel État n'est pas un narco-État. C'est plutôt un continuum avec du score, si on voulait définir les choses. Alors, c'est pas la première fois qu'on entend ce type de déclarations. Elles sont de plus en plus fréquentes d'ailleurs, dans le chef de personnes du monde politique, d'une part, et c'est plus rare, mais ça s'explique aussi parce que c'est un peu de la politique, même si ce ne sont pas des professionnels de la politique, on l'entend dans la bouche de beaucoup d'acteurs de la chaîne pénale, policiers, magistrats ici en l'occurrence. Et donc je pense qu'avant tout, ce sont des déclarations qui visent à attirer l'attention, à demander plus de moyens, certainement. Donc, il y a une petite visée stratégique aussi, il faut le reconnaître. Et puis, ce sont aussi des témoignages. Là, dans le dernier fait que l'on évoque, il y a des émotions, vraisemblablement, de situations qui sont difficiles. Alors, disant cela, je ne dis pas qu'on n'a pas de problème et qu'on n'a pas de problème avec le trafic de drogue dans toutes ses dimensions, parce que c'est beaucoup de dimensions. Je dis simplement que, en fait, ce sont des déclarations outrancières qui nuisent d'ailleurs à l'image de la Belgique et qu'il faut traiter avec nuance et prendre pour ce qu'elles sont. La Belgique, c'est pas le Mexique. Pour autant, je pense qu'il faut quand même qu'on soit au niveau des pouvoirs publics et au niveau de la société civile aussi particulièrement vigilant quant à des évolutions qu'on est en train de remarquer.
Alors, c'est vrai que c'est pas le Mexique, mais on a vu énormément, et ça choque toutes ces fusillades à Bruxelles, Michael Dantine, quasiment tous les jours cet été. Et en fait, dans sa lettre ouverte, la juge d'instruction, elle dit quelque chose qui est alertant tout de même, c'est que même s'il y a une bonne volonté, on va dire, politique, elle estime que ça manque d'exemples concrets, de sentiments d'urgence pour véritablement réagir à cette situation qui est tout de même inquiétante pour le Belge moyen, on va dire.
Mais moi, je comprends parfaitement ça. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est que c'est un peu comme s'il y avait une prise de conscience qu'il existait un trafic de drogue qui se donne à voir, alors qu'il a toujours existé en se donnant moins à voir ou à se voir sous d'autres formes, à travers ses expressions les plus violentes. Le narcotrafic, vous savez, c'est historiquement quelque chose d'extraordinairement violent, comme la criminalité organisée. Sauf qu'elle n'est pas démonstrative. Ici, elle se donne plus à voir parce qu'elle est sur le bout de la chaîne, c'est-à-dire plutôt au niveau du deal. En fait, le deal, si on réfléchit en analyse économique, c'est là où l'offre de substances, on rencontre la demande, le consommateur, le toxicomane. Et là, nous avons des guerres de marché, qui sont des guerres de territoire, qui sont des guerres entre groupes, voire des guerres entre groupes. Et comme on est dans la totale illégalité, on ne va pas devant le juge pour régler un litige commercial, on le fait avec de la violence, une violence qui est certainement décomplexée, un accès aux armes à feu qui n'est pas si compliqué pour ces individus-là. Et si dans le narcotrafic, la vie, ça a toujours eu un prix, alors que normalement la vie, ça n'a pas de prix, oui, hein, c'est vraisemblablement le prix de la vie, il a baissé. Et donc, faut faire attention, si vous voulez, de prendre la face visible d'un phénomène comme étant le révélateur de sa face invisible. Néanmoins, moi, je peux tout à fait comprendre que quand on habite dans les quartiers, déjà le deal, c'est gênant, c'est violent, c'est gênant, c'est dangereux, c'est insécurisant. Donc, il faut vraisemblablement faire quelque chose. Alors, il y a de la volonté politique. Moi, je suis le premier à être critique envers les politiques. Mais néanmoins, il y a quand même des avancées. On a une commission nationale aux drogues. Il y a des politiques qui sont mises sur pied. En revanche, moi, je serais plus critique sur à la fois la manière dont on mène les actions et aussi la manière dont on les évalue. Parce qu'en réalité, on constate que les indicateurs que l'on prend généralement pour définir ce que c'est qu'un narco-État sont pas les bons indicateurs. Donc on dit que c'est un narco-État et puis on ne mesure pas vraiment. On connaît pas tout à fait le niveau de corruption chez nous. On voit qu'il y a un certain nombre d'éléments qui traduisent une évolution du phénomène. Et puis en termes d'efficacité des politiques, moi j'entends qu'on dit on a décerné autant de mandats d'arrêt. Ça fait plaisir. Mais après, la question, c'est est-ce qu'on a diminué l'offre ou est-ce qu'on a diminué la demande? C'est-à-dire que je vous rappelle qu'au début, on lutte contre le narcotrafic pour lutter contre la toxicomanie. C'est ça l'histoire, en réalité. Et là, moi, je vois des indicateurs qui prouvent le contraire. C'est-à-dire qu'en dépit, des actions qui sont menées, un indicateur qui serait un bon indicateur, c'est l'augmentation du prix des doses. Et le prix des doses, il reste stable. Or, si on rétrécissait un peu l'offre, c'est-à-dire qu'on impactait les narcotrafiquants, ou si on dissuadait les consommateurs de consommer, normalement, le prix devrait varier dans un sens ou dans l'autre. Et donc, je pense que là, il y a une politique qui est menée, mais elle est un peu disparate et elle manque de réflexion.
Alors justement, Michael Dantine, ce que je trouvais assez inquiétant tout de même dans les propos de la juge, vous parliez de, on ne sait pas à quel est le niveau de la corruption, mais visiblement, elle parle d'employés du port, de douaniers, de policiers et même de personnel de la justice à l'intérieur des prisons qui seraient corrompus. Et elle parle aussi de menaces sur les juges et les juges d'instruction. Et elle explique que les narcotrafiquants continuent de travailler même quand ils sont incarcérés. Donc ça revient à ce que vous dites. Il n'y a évidemment pas de baisse de l'offre, puisque s'ils peuvent continuer de travailler même quand ils sont en prison, le marché continue comme d'habitude.
Oui, c'est tout à fait vrai. Non seulement ils continuent à orchestrer le marché depuis leur prison, mais l'incarcération des uns fait pousser les dents, si j'ose dire, des autres de leur groupe qui se disent ben moi je vais être calife à la place du calife. Et donc ça crée des guerres entre groupes pour le leadership. Et alors quand la personne ressort de son incarcération, ça crée encore plus de tumulte. Donc c'est le paradoxe en fait. On met un coup de pied dans la fourmilière. On a plus de fourmis, et donc, quelque part, on produit un peu ce qu'on voudrait éviter. Maintenant, c'est un vrai problème, en réalité, que la porosité des murs de la prison. Mais je veux quand même vous rappeler que ça fait au moins 40 ans que l'on sait qu'en prison, on trouve toutes les drogues nécessaires, et que donc, je ne vois pas comment on arriverait à mieux contrer la présence, par exemple, des GSM en prison que ce qu'on pourrait le faire vis-à-vis de toute une série de choses qui rentrent en prison qui ne devraient pas, rentrer. Mais c'est un vrai problème. Les menaces sont un vrai problème aussi, mais encore une fois, c'est pas dire que c'est plus acceptable, c'est pas nouveau. Je vous rappelle le sort funeste du juge Falcone. Par contre, ce qu'on voit et qui est en train de se passer, c'est que les menaces sont de plus en plus ouvertes. Ça, c'est une évolution. Que le monde politique se trouve menacé, que dans d'autres pays, il y a des journalistes qui ont été tués. Ça, ce sont alors non pas des marqueurs d'un narco-État, mais d'un possible processus de narco-étatisation dont il faut se méfier. Et malheureusement, en fait, aussi, les exemples que vous prenez, ça démontre que si on n'attaque pas globalement le phénomène, c'est-à-dire tant au niveau du narcotrafic qu'au niveau de la consommation, et vous aurez constaté avec moi qu'on parle beaucoup plus des efforts menés contre l'offre que contre la demande, c'est un peu la part du pauvre, hein, finalement, de prévention, de prise en charge, éventuellement de répression de la demande, mais en réalité, les acteurs passent, sont incarcérés, certains meurent, vous l'avez dit, dans des violences, et pourtant le marché demeure. Et donc, c'est bien la preuve qu'il faut, à mon sens, mener d'autres politiques. Il y a un constat général, scientifique, qui est l'échec de ces approches. Et moi, ce que je déplore, c'est que même si ça rencontre peut-être une demande de l'opinion publique en termes de sécurité, en réalité, finalement, quand on regarde les indicateurs, ça ne fonctionne pas. Et on est en train de s'entêter dans un modèle qui a démontré, partout à travers le monde, ses limites, voire ses effets pervers.
Alors justement, Michael Dantine, pour finir, comment est-ce que l'État belge va réussir à se défendre contre ces phénomènes?
Je suis pas sûr que l'État belge soit menacé en tant que tel, parce que l'idée du narco-État, c'est ça aussi, ce serait des organisations criminelles qui dirigeraient le pays. Alors, c'est un risque qu'on doit prendre en compte, plus particulièrement dans certains secteurs de prise de pouvoir, mais c'est pas aujourd'hui au Parlement et dans le gouvernement les narcos qui décident. Moi, je pense que si on veut sortir de cela et de poigner dans le problème, il faut mener des politiques courageuses. Elles commencent par le niveau local. Il faut impliquer la société civile parce que il y a des questions qu'on ne pose jamais. C'est comment se fait-il que des jeunes décident en dehors de la contrainte, hein, parce qu'il y en a qui sont contraints de se lancer dans ce type de trajectoire. Ça renvoie à des marqueurs de société. C'est l'hypervirilisme, par exemple. C'est le profit facile. C'est aussi, on voit que ça survient dans des zones qui sont pas très bien sur le plan architectural, urbanistique. Donc il y a tout un chantier, si vous voulez, de politique sociale, économique, éducationnelle, de l'ordre de la culture, à côté de la politique répressive. Et tant qu'on ne joint pas tous ces bouts-là, Je reste malheureusement assez convaincu que, comme on le voit dans tous les pays du monde, le narcotrafic va continuer. Il y aura toujours des gens qui voudront consommer des substances et il y a toujours des gens qui seront prêts à leur offrir et à se rémunérer, si vous voulez, sur le prix du risque. Car n'oubliez jamais que quand quelqu'un achète une dose de drogue, la majeure partie du prix qu'il paye, avec toutes les conséquences que ça aura, c'est la rémunération du risque, le risque que les autorités veulent dissuasif, mais malheureusement, dont certains narcotrafiquants voient principalement une source de profit.
En tout cas, moi, je trouve inquiétant que la juge d'instruction en question ait passé 4 mois à vivre dans une planque et que beaucoup de juges belges soient menacés par les narcotrafiquants.
Ben c'est, vous avez tout à fait raison, mais l'inquiétude, c'est un sentiment, et je trouve ça absolument regrettable aussi. Et ça traduit quelque chose, ça traduit aussi que dans ces milieux-là, on est prêt à tout, et qu'il y a des deals qui sont tombés. Je vous rappelle qu'il y a même eu des menaces sur la famille royale, des projets de kidnapping avortés de nos politiques. Et donc, en fait, ça nous révèle une violence ou une intimidation qui était latente. Néanmoins, au-delà de cela, en réalité, les politiques que l'on mène, elles sont malheureusement vouées à l'échec et quelque part, elles sont au bon vouloir des acteurs qui s'arrêteront de s'entretuer le jour où ils trouveront une nouvelle entente. Mais je vous le dis ici solennellement entre guillemets, c'est pas parce que les violences diminueront peut-être dans les mois qui viennent et on s'en réjouira que ça signifiera qu'il y aura moins de doses vendues, moins de consommation. Simplement, le phénomène se donnera moins à voir. Et donc, oui, je pense qu'on est dans une ornière. La question, c'est de savoir comment et si on va en sortir.
Eh ben, on espère effectivement qu'on en sortira. Merci beaucoup à Mickaël Dantine d'avoir été avec nous ce matin pour cette question épineuse, criminologue à l'ULIÈGE. Bonne journée à vous, à très bientôt.
Bonne journée, au revoir.